Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le jeu vidéo ne se limite pas à ce que l'on voit à l'écran. Ce n'est pas un simple divertissement pascalien, qui avec le temps serait devenu de plus en plus élaboré, suivant les avancées technologiques et la place prise par ce qui est désormais la première industrie culturelle de France. Il est un créateur de communautés. Des forums en ligne au début des années 2000, aux supporters des clubs de e-sport, ces clubs de joueurs professionnels de jeux vidéo, c'est tout un écosystème social qui s'est créé autour de titres comme Counter-Strike, Dota, League of Legends ou encore plus récemment Rocket League. Il est également le lieu d'une innovation continue, réinventant constamment la narration vidéoludique et offrant une palette d'émotions inédites aux joueurs. Car ce qui différencie le jeu vidéo de la littérature ou du cinéma par exemple, c'est bien cette interactivité. Le joueur est dans le jeu, il en est un protagoniste, parfois même plus. Il est confronté à des décisions plus ou moins éthiques, à des mondes qui lui sont complètement étrangers. C'est même lui, parfois, qui pose les règles du jeu. C'est ses actions qui déterminent le destin d'un individu, voire même d'un monde entier. Les progrès technologiques ont permis de développer des machines toujours plus puissantes et accessibles, qui à leur tour donnent accès à des merveilleux exutoires, à des échappatoires cathartiques qui font bien plus que divertir. Si les émissions autour du jeu vidéo ont tendance à en minimiser la dimension artistique et philosophique, ce numéro des Chemins de la philosophie d'Adèle Van Rett, avec l'auteur et journaliste Jean Z, diffusé pour la première fois le 18 septembre 2017, explore au contraire la richesse des possibles offerts par le jeu vidéo, avec une aisance et une ouverture d'esprit qui ravit l'oreille. Philosophie des jeux vidéo, de l'Antiquité à nos jours donc, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel est le point commun entre le rock, les mangas et les jeux vidéo? Tous ont été accusés de corrompre une jeunesse déjà vacillante et de troubler l'ordre public. Tous, mais depuis toujours. Pensez aux feuilletons au XIXe siècle qui provoquaient un engouement similaire à celui des séries télé aujourd'hui. Et Platon, oui, Platon, qui nous raconte comment l'invention de l'écriture fut reçue par le roi d'Égypte comme l'annonce d'une perte irréversible du savoir et l'invitation à une passivité dangereuse chez les étudiants, avançant les mêmes raisons que brandissent aujourd'hui les détracteurs des jeux vidéo. De quoi faire sourire. Allez, puisque c'était toujours mieux avant, avançons gaiement vers les gamers, en route sur les chemins de la philosophie. Bonjour Jean Z.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Vous êtes journaliste, vous tenez une chronique sur France Info à 8h45 le dimanche matin, mais vous n'êtes pas sûr. Alors, je renvoie vers le site des chemins de la philosophie pour en savoir plus sur votre travail Jean Z. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes l'auteur d'un livre sur le jeu vidéo à travers le temps, une coédition Seuil France Info, qui est un livre exceptionnel. Je tiens à le dire tout de suite, c'est un bel objet dans lequel on apprend tout ce qu'il faut savoir sur le jeu vidéo pour pouvoir le prendre au sérieux, c'est le but. Et pourtant, vous ne vous prenez pas au sérieux, le livre est extrêmement ludique, fait avec des entrées qui s'adressent à tout le monde, que ce soit par portrait des inventeurs des jeux vidéo, par thème, par question, par jeu vidéo, vraiment, bravo et merci d'être là ce matin. On va commencer par la fin Jean Z, parce qu'il y a une histoire des jeux vidéo à proposer, on va essayer d'ailleurs la retracer aujourd'hui. Mais si on commence par la fin, c'est-à-dire par aujourd'hui, il y a une notion tout de suite qui apparaît quand on parle de jeux vidéo, c'est celle de spectacle. Le jeu vidéo aujourd'hui est un spectacle.
Oui, ça se regarde autant que ça ne se joue, c'est d'ailleurs paradoxal. Le jeu vidéo c'est interactif, c'est pour ça que ça a séduit la planète entière. C'est l'interactivité avec un écran et un côté ludique, art ludique. Mais de fait, aujourd'hui on le consomme sur internet et on le consomme aussi de façon sportive. Alors il y a le jeu vidéo du dimanche, hein, on est tranquillement assis sur son canapé et on joue. Et puis il y a la version sportive dans des stades avec des stars, avec un public, avec des sponsors, avec de la publicité, des coupes, des trophées, un récit, c'est-à-dire du drame, de la joie, de la défaite, et des gagnants et des gens qui perdent. Bref, ça s'appelle l'e-sport, c'est le sport électronique, c'est la version, on va dire, sportive de ce secteur, de ce médium, et qui est absolument génial, qui est la porte d'entrée du livre, c'est-à-dire commencer par aujourd'hui pour mieux comprendre, on va dire, hier et comment est né ce médium.
L'hymne national. On se lève, les amis, on se lève. Allez, on se lève le doc, là.
Ils sont en train de chanter la Marseillaise.
The national hymne for the French.
Un spectacle haut en couleur, une salle chauffée à blanc, une mise en scène pyrotechnique, des écrans géants, des encouragements, des applaudissements et des millions de téléspectateurs en mondovision. On ne parle pas ici d'un concert popstar ni d'une finale de Coupe du Monde. Bienvenue dans une compétition de jeux vidéo avec ses athlètes idolâtrés, ses supporters donnant de la voix, ses matchs d'anthologie, ses organisateurs, commentateurs, sponsors, moyens techniques. En un mot, l'e-sport. Quelle différence, Jean Z, entre l'e-sport et le sport, les matchs de foot, c'est-à-dire le sport tel qu'on le conçoit, où il y a des vrais joueurs qui s'affrontent sur un terrain, c'est exactement la même chose, il n'y a plus de différence entre le virtuel et le réel. Là.
Finalement, assez peu, on parle de sport cérébral hein, pour définir l'e-sport aujourd'hui, mais parce qu'on a du mal finalement à le faire rentrer dans une catégorie, comme on a d'ailleurs du mal à faire rentrer le jeu vidéo dans une catégorie. Est-ce que c'est de la technique, est-ce que c'est du divertissement, est-ce que c'est de l'art? Personne n'en sait finalement rien, enfin ou presque. Et donc finalement, ce sport électronique se retrouve un peu engoncé dans une définition du sport athlétique. Non, alors est-ce que c'est plutôt cérébral? Mais enfin, c'est quand même exigeant. Ces jeunes gens s'entraînent plusieurs heures par jour hein, pour gagner cette fois des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros lors de tournois très importants hein, qui remplissent des Bercy, qui remplissent des stades. En Corée du Sud notamment, c'est extrêmement important. Mais c'est une histoire qui est vieille comme le jeu vidéo. En 1980, aux États-Unis, on s'est affronté sur Space Invaders, par exemple. Et au final, on gagnait quoi? Un abonnement à Rolling Stone, quoi, d'un an. Enfin, aujourd'hui, on gagne près d'un million de dollars pour ce qui est des Coréens du Sud pour les championnats de League of Legends, qui est le jeu, on va dire, emblématique de l'e-sport, hein, qui est une espèce de variante des jeux de dames, on va dire, hein, pour l'expliquer clairement, avec un affrontement 6 contre 6 sur une carte. Mais c'est quand même étonnant de voir ces gens hurler. On entendait là dans l'extrait effectivement le commentateur qui se sent obligé de traduire en anglais qu'on est en train d'écouter l'hymne français. Pourquoi? Parce que le jeu vidéo, c'est mondialisé par nature, c'est mondialisé immédiatement. Et donc, en fait, même le commentateur français est obligé, lui, d'expliquer aussi en anglais, parce qu'il y a des spectateurs du monde entier qui regardent ces joutes électroniques.
Alors, on insiste sur la dimension de spectacle, puisque dans l'e-sport, c'en est une, évidemment. C'est vraiment l'essence spectaculaire du jeu vidéo. Et pourtant, à la base, c'est vraiment un individu avec une machine qui, presque par hasard, va produire quelque chose qui ressemble à un jeu. Mais on n'est vraiment pas dans la dimension spectaculaire.
Non, le spectacle, on va dire, c'est quasiment un accident. En tout cas, celles et ceux qui ont conçu le jeu vidéo à la base, ne pensait pas du tout au spectacle. C'était une manière de faire marier la révolution informatique de l'époque. On est avant les années 70, on est dans les années 50-60, personne ne sait ce que c'est, à part des nerds, des chercheurs, des ingénieurs, c'est des tronches. Et ils se disent, bon bah tiens, comment faire comprendre au grand public ce qu'est la révolution informatique en marche et les faire rêver? Eh ben on va utiliser des jeux, on va les faire jouer. mais il ne pense pas à la dimension spectaculaire, mais qui est déjà là, inhérente, présente, et qui va s'étendre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'e-sport. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que on va dire, ceux qui ont créé le jeu vidéo, pour la plupart, n'ont absolument pas vu ce qu'était le jeu vidéo, c'est-à-dire cette dimension spectaculaire.
On va remonter jusqu'en 1958, on ira bien plus loin encore après, mais d'abord 1958, l'invention du premier jeu vidéo, Tennis for Two. Ce son est génial, Jean Z, parce qu'on est à l'opposé de tout ce qu'on attend aujourd'hui d'un son de jeu vidéo. D'ailleurs, la musique originale, mais oui, enfin la musique instrumentale qui accompagne GTA a ouvert cette émission, hein, des jeux vidéo dont on reparlera. Puis on a entendu la musique qui accompagne le spectacle de l'e-sport. Ici, on entend quoi ? Une machine avec des boutons ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ?
Oui, alors c'est une machine en plus analogique. Hein. On est vraiment là aux prémices de la révolution informatique. On n'y est même pas encore. C'est William Higginbotham. Alors c'est un physicien nucléaire absolument génial. Il décide de faire dans son laboratoire près de New York, laboratoire de physique nucléaire, hein, donc on n'est pas là pour domestique, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Mais on fait des portes ouvertes un week-end et il voit ses collaborateurs en blouse blanche avec des machines, des oscilloscopes partout. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va s'ennuyer, les visiteurs vont vivre un ennui, un spleen total. Il faut mettre de l'amusement, il faut mettre un peu de fête là-dedans. Et il dit, bon, on va faire un jeu. Et en deux jours, il imagine une simulation de tennis, donc Tennis for Two sur oscilloscope.
Sur oscilloscope.
Sur oscilloscope. Hein, c'est vraiment un oscilloscope, on se renvoie la balle, y a une petite barre pour le filet, puis la balle, les joueurs ne sont même pas retranscrits, hein, on ne voit pas les joueurs, ils sont invisibles, mais on peut quand même se renvoyer la balle avec une petite manette et une petite touche. Et donc, ce jeu va susciter l'engouement. Il va y avoir une queue absolument incroyable, tout le monde va vouloir jouer à Tennis for Two. Il faut savoir que William Higginbotham a dû déposer des dizaines de brevets dans sa vie, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était habitué à protéger ses inventions, vraiment, réellement, c'était vraiment le fond de l'affaire, le fond de son activité, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que il fait en 58 ses portes ouvertes, c'est un carton, Tennis for Two, vraiment attire la foule. L'année d'après, pareil. Et après, il rangera finalement les oscilloscopes dans un grenier. Mais il ne déposera jamais de brevet pour ce qui est le jeu vidéo, pour ce qui est Tennis for Two, estimant que, à quoi bon? C'est juste un jeu.
Et c'est ce que j'allais vous dire, c'est juste un jeu. Avec cette histoire qui est géniale, qui est vraiment la naissance du jeu vidéo, on comprend qu'il est né par une demande de divertissement. Vous l'avez dit, le but c'était pour que cette personne, hein, William Higginbotham, eh bien construise une espèce de pont entre la science et l'homme par le divertissement pour faire venir le public et puis redorer l'image de la science à l'époque.
Exactement, et puis oui, évidemment c'était la physique nucléaire, donc le nucléaire forcément charriait une très mauvaise image. Donc William Higginbotham, d'ailleurs qui était pour la non-prolifération des armes nucléaires, hein, il s'est longtemps battu pour cette cause, eh bien va imaginer, mais sans imaginer justement une seule seconde qu'il va peut-être inventer un secteur économique capable d'engranger des dizaines de milliards d'euros chaque année. Ça viendra bien plus tard. En 62, on a Space War, l'idée géniale de Space War. Là, on est au MIT, pareil, on reçoit un bel ordinateur, un peu moins cher que les autres, $100 000. On dirait c'est une paille, hein, mais enfin quand même. Et on se dit, tiens, on va faire un jeu inspiré un peu de la guerre froide dans l'espace avec un combat entre deux vaisseaux spatiaux. Mais les personnes qui sont autour de la table pour créer Space War ne se disent pas jamais, à aucun moment, tiens, on va déposer un brevet. Le premier brevet de jeu vidéo, c'est en 66, hein, c'est Ralph Baer qui le dépose. Mais personne, finalement, dans ce monde de la science, ne voit l'intérêt, ne serait-ce qu'économique. Il le voit l'intérêt ludique, mais l'intérêt économique de ce jeu vidéo naissant.
Oui, parce que le jeu est rarement gratuit, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mmh. C'est assez intéressant qu'aujourd'hui, les détracteurs des jeux vidéo le réduisent à sa dimension purement ludique et donc inutile. Or, le jeu, depuis le début de l'histoire de l'humanité, est un élément constitutif de chaque société.
Oui, mais il y a une dimension...
Pourquoi le jeu vidéo souffre-t-il autant de ce statut ?
Parce que c'est le jeu qui souffre d'un tabou social. Vous avez dû en parler dans cette émission, l'enfant est considéré comme un joueur. C'est un joueur, c'est le joueur par excellence. Ben, le jeu, on considère que le jeu est attribué à l'enfant, c'est passé au-delà du cap de l'adolescence. Et ben, il y a une espèce de tabou. Jouer au-delà de 20 ans, c'est quand même rester un enfant, rester un petit serpent, rester que ce symptôme de l'enfant éternel. Or, il y a une espèce d'interdit. On vous regarde, on vous juge, on se dit, mais c'est rester un enfant, il faut être adulte. C'est un rite initiatique, j'allais dire. L'abandon du jeu doit être un rite initiatique pour les adultes qui font après des enfants pour, pour jouer avec eux, pour retrouver leur jeu d'enfant. Mais je pense que c'est plus largement, c'est une question qui dépasse le jeu vidéo lui-même, ça touche le jeu profondément et notre regard social sur celui-ci, qui doit être un abandon. Voilà, il doit y avoir une espèce d'abandon. Et voilà, moi j'ai refusé cet abandon. Il faut passer aux choses dites sérieuses. Mais ce qui est étrange, c'est que le jeu vidéo lui aussi peut être sérieux.
Ça, et oui, on va le voir sérieux, même plus que ça, c'est-à-dire aussi même presque dangereux par son caractère sérieux, parce que dans le jeu vidéo, il y a jeu, on en a parlé, mais il y a vidéo, c'est-à-dire que le problème aussi avec cet univers, c'est la difficulté à lui attribuer un statut. Est-ce qu'on parle de virtuel? Est-ce qu'on parle d'imagination? Ou est-ce que finalement, parce que c'est pas parce que ça se passe derrière l'écran que c'est faux, que c'est irréel, est-ce que le danger associé au jeu vidéo ne vient pas au contraire du caractère accru de la réalité qu'on trouve derrière l'écran?
Alors, est-ce que... C'est vrai que ce combat entre virtuel et réel est un vrai combat, et notamment parce que la spécificité du jeu vidéo, c'est l'interactivité. Donc, si j'interagis, si je joue un voyou qui fait un casse, est-ce que je suis moi-même un voyou qui fait un casse? Est-ce que je vole un œuf, etc., etc. Moi, je ne crois pas. Cette dimension-là est impossible. On revit effectivement de manière interactive, mais il y a toujours un espace entre l'écran et le joueur, toujours. C'est dans le mensonge, c'est dans la levée de l'incrédulité du joueur qui essaie de lever tout ça, d'enlever de se recréer une naïveté, de se dire oui j'y suis, je suis dans GTA, oui je suis dans Call of Duty, je suis dans un jeu de guerre, je suis dans un jeu de voyous, et pour essayer d'y être. Mais il y a toujours un espace entre ce virtuel et le réel.
L'histoire du jeu vidéo est une histoire du réalisme aussi, puisque plus les jeux vidéo s'inventent et ils sont en invention perpétuelle, plus ils essayent d'être proches de la réalité. Mais c'est aussi une histoire du son. Écoutez, après Tennis for Two, le jeu vidéo qui naît, qu'on identifie comme étant le premier de l'histoire du jeu vidéo, écoutez le son parce que c'est le résultat d'un traficage de la carte son pour obtenir ça.
Oui.
Alors on a, quand on joue à ce jeu Pong, hein, un petit signal à côté qui écrit, le but c'est d'éviter de rater la balle pour obtenir le meilleur score. Mm-hmm. Le but du jeu est clair, tout le monde peut y jouer, on a une balle, deux joueurs qui contrôlent deux barres ou deux raquettes avec un bouton rotatif, un filet, une sorte de tennis de table vu de dessus où chaque joueur s'affronte dans le but de garder la balle dans le terrain alors que sa vitesse augmente constamment. Pong est né, et tous ceux qui se souviennent de leur premier jeu vidéo qui ont plus de 30 ou 40 ans, se souviennent de Pong, Jean Z.
Non, effectivement, Pong 72, c'est le premier Big Bang du jeu vidéo. Et c'est marrant parce que le son, Nolan Bushnell, qui est l'initiateur d'Atari, hein, le président d'Atari, a demandé à son ingénieur à l'Alcorn de créer un son de stade, hein, avec des milliers de spectateurs. Il fallait que ça hurle, il fallait qu'on entende le bruit des raquettes. Et vous voyez ce que ça a donné. Bon, c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus mesuré, on va dire, et modeste. Mais l'idée géniale, c'est de créer ce que je dire un gros mot, parce que c'est un mot dans le jargon, c'est-à-dire que le truc génial dans Pong, c'est le gameplay. Le gameplay, c'est quoi? C'est la jouabilité, les mécaniques de jeu, mais pas seulement, c'est le plaisir de jeu. C'est à la fois les règles, et c'est à la fois le plaisir, mais le plaisir, c'est extrêmement subjectif. Mais ce jeu crée pour la première fois un gameplay absolument fascinant et absolument joyeux à jouer, et qui va séduire la planète entière, enfin d'abord les États-Unis et puis toute la planète. Pourquoi? Parce que par exemple, quand la balle arrive, plus la balle va toucher l'extrémité de la barre, c'est-à-dire la retranscription du joueur, l'avatar du joueur, plus la balle va prendre de la vitesse et de l'angle. Mais c'est très dur, on peut la louper. C'est-à-dire, évidemment, si la balle s'approche trop loin de la barre, on la loupe et on perd un point. Et cette idée géniale marche encore aujourd'hui. En 2017, vous faites jouer Pong à des jeunes, ils se disent, bon, là, évidemment, les graphismes, c'est tellement vieillot et tellement has-been, mais quand ils y jouent, le plaisir du gameplay, le plaisir de cette jouabilité est là et encore là. C'est vraiment un jeu dément. Même le son, on l'oublie au bout d'un moment, on oublie que c'est pas le bruit du stade, etc. Et il y a un vrai, vrai grand plaisir de jeu, et c'est pour ça que ce Pong est le premier Big Bang du jeu vidéo.
Et c'est tout de suite une interaction, c'est-à-dire que dès le premier jeu vidéo, il s'agit de jouer contre quelqu'un d'autre. Il y a une une rencontre ou en tout cas une forme de relation qui s'installe avec une altérité dès le début.
Exactement, et puis alors soit c'est le joueur, soit c'est l'ordinateur, mais effectivement il y a un face-à-face, ça commence, l'histoire du jeu vidéo commence et débute par un face-à-face, mais c'est surtout la découverte d'une interaction, c'est-à-dire que ça n'existe pas, on est habitué au spectacle passif, on est habitué à la littérature, on est habitué au cinéma, mais on n'est pas habitué à être acteur de son propre divertissement.
Ça c'est fondamental, Jean-Denis.
Ah mais c'est
complètement... Là c'est ce qui change tout,
c'est-à-dire... Totale révolution, c'est-à-dire que c'est ça le rock'n'roll, la notion de rock'n'roll dans le jeu vidéo. C'est pour ça que ça va mettre, on va dire, des parents dans la panade,
dans l'embarras,
parce qu'il va y avoir une vraie confrontation de générations. Là, les jeunes gens vont prendre le jeu vidéo littéralement tout de suite en main et vouloir y jouer. Il faut se rendre compte de ce que c'est Pong. Il y a eu les bornes, c'est-à-dire la naissance des salles d'arcade, hein, on a des salles de jeu, et puis il y a eu le Pong version salon, le version canapé où les parents ont acheté ça, parce que c'est quand même les parents qui ont acheté ça aux enfants. Et la notion, on va dire, de jeux vidéo et de révolution informatique n'est absolument plus la même aujourd'hui. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, on achetait de la science-fiction. C'est ce qu'on offrait à ses enfants. On offrait un morceau de futur. On n'a plus du tout ce regard-là. On n'a plus du tout cette fascination-là. Il y a même un côté, on est un petit peu, c'est un petit peu commun tout ça, les smartphones, etc., etc. À l'époque, offrir une boîte de jeux, c'était incroyable. Une boîte de jeux informatique interactive, on offrait un morceau de futur et Pong était cette promesse.
Un morceau de futur dans lequel le joueur est actif. Je reviens sur cette idée-là parce qu'elle est très importante. Il est facile de comparer le joueur face à son écran à quelqu'un qui ne fait pas grand-chose, qui passivement regarde un écran. Or, il est sans cesse dans une activité permanente, dans une entreprise et une innovation qui ne s'arrête jamais par définition, puisque le jeu, on peut mettre sur pause, mais dès qu'on remet sur play, il faut continuer, il faut agir.
Il faut agir constamment, même si aujourd'hui le jeu vidéo commence à prendre des formes un peu moins interactives. On revient à cette notion de spectacle, du fait qu'il se regarde plus qu'il ne se joue aujourd'hui, mais tout de même, c'est sa condition sine qua non, il faut agir, il faut être acteur. C'est pour ça que vous avez débuté l'émission par le e-sport. Mmh. On est dans plein paradoxe. C'est-à-dire qu'on demande à des gens qui adorent l'interactivité ludique de s'installer dans des gradins et de regarder d'autres jouer. Mais c'est fascinant de regarder le jeu vidéo également. C'est un spectacle. C'est ce que n'avaient pas prévu du tout les concepteurs, que ce jeu actif pouvait se révéler passif et se consommer, c'est-à-dire sans manette à la main, sans interagir. Mais de toute façon, le jeu vidéo marque sa différence avec les autres médiums présents par son interactivité. C'est réellement son essence première, c'est cette interactivité contre la passivité. C'est le fait de prendre en main son aventure, d'être partie prenante de l'aventure.
D'être le héros de sa propre histoire.
Ce qui explique aussi le fait que ce soit un voleur de temps. Puisqu'on est actif, on ne regarde plus les minutes, puis on ne regarde plus les heures, et les heures, et les heures, et on peut voir passer une nuit de jeu sans s'en apercevoir. Se retrouver le lendemain et se dire, de jouer à Lara Croft toute la nuit à Tomb Raider, se dire, ah mince, il est déjà 5h du matin. Et voilà. C'est un voleur de temps à l'image de la littérature qui n'est pas interactive.
Mais c'est ça. Dans quelle mesure est-ce que c'est du temps perdu à partir du moment où l'expérience que l'on vit en jouant au jeu vidéo peut être assez similaire d'une expérience de lecture. Vous parlez de littérature, simplement dans le jeu vidéo, en plus nous sommes actifs.
Oui, effectivement nous sommes actifs et du coup, partie prenante de ces parties justement, eh bien on ne voit pas le temps passer. Je reviens à cette notion de gameplay. Plus ce gameplay, donne du plaisir, et plus le temps passe vite. Mais ceci dit, ça pourrait rejoindre le style en littérature. C'est-à-dire que plus le style est prenant, et vous ne voyez pas les nuits non plus. Ce qui était très étrange avec ça, moi j'étais accro à la littérature quand j'étais adolescent, et je dévorais des livres et des livres et des livres. Mais personne ne m'a jamais reproché d'être accro ou d'être addict à la littérature. Or, quand je suis un peu plus tombé dans le jeu vidéo, et où j'y passais des heures, parce que les jeux exigent des heures, parfois, et des dizaines d'heures pour les finir, eh bien, ces reproches-là sont arrivés. En tout cas, le regard est différent. Et on voit bien que quand on change de médium, eh bien, on va dire, on change de regard.
Et pourtant, on ne change pas d'univers. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, depuis bien longtemps, l'univers des jeux vidéo propose un monde fait de nuances, de subtilité, d'une multiplicité d'expériences qui ne nous seraient jamais données à vivre dans la vie réelle, c'est-à-dire une fois qu'on a éteint l'écran, et qui peut proposer, pas toujours évidemment, mais c'est comme il y a des bons et des mauvais livres, mais il y a aussi des bons et des mauvais jeux vidéo, mais des expériences qui seraient inatteignables autrement. C'est-à-dire que là, c'est important de le dire, qu'il n'y a pas forcément une hiérarchie, en dehors de tout snobisme, entre une bonne littérature et des mauvais jeux vidéo. Il y a aussi des très bons jeux vidéo qui provoquent vraiment quelque chose d'inouï.
Oui, et que seul le jeu vidéo peut procurer. Effectivement, je le rapprocherai finalement de l'architecture. D'ailleurs, le jeu vidéo connaît les mêmes problèmes. C'est-à-dire que l'architecture, chez les Grecs, ce n'est pas reconnu comme un art. C'est plutôt la poésie qui est reconnue comme un art. Ce sera donc bien plus tard. Mais aujourd'hui, vous cherchez un peu sur Internet et vous tombez sur des articles. L'architecture est-elle de l'art ? Donc, et on se dit, ah bah tiens, parce que c'est de la science aussi. Et donc, du coup, comme c'est de la science et que c'est un peu utile, ah bah ce serait pas de l'art. Et le jeu vidéo souffre exactement des.
Comme la bande dessinée d'ailleurs.
Exactement, comme la bande dessinée. Donc, de ces mêmes questions qui reviennent et qui reviennent sans cesse. Et donc, c'est assez intriguant. Le jeu vidéo est un créateur de monde. Alors, petit monde dans Pong, on est sur un terrain de tennis ou de ping-pong, bref, peu importe. Mais voilà, bah, on a créé un monde et d'un coup, bah, l'imaginaire fera le reste. Et puis petit à petit, aujourd'hui, on s'aperçoit que ces mondes deviennent infinis. On a un jeu vidéo comme No Man's Sky, c'est des dizaines et des dizaines de galaxies à explorer. C'est-à-dire qu'on n'a pas une seule vie ne suffirait pas pour explorer un tel jeu. J'allais dire à quoi bon, mais il n'empêche que c'est un jeu vidéo qui le fait comme ça. Donc le jeu vidéo, en créateur de nouveaux mondes, crée des expériences qui ne tiennent pas à la narration ou à l'histoire. Par exemple, si je prends un Super Mario, bon ben voilà, la princesse Peach a été enlevée, il faut aller la sauver. Ça n'a absolument aucun intérêt.
C'est pas ça qui fait qu'on va jouer.
Non, ce n'est pas ça. Et pourtant, le jeu vidéo va raconter une histoire. Il va se passer quelque chose comme un récit, mais la narration est totalement nouvelle. Elle s'invente, elle émerge. Elle fait autre chose, en tout cas, que ce que font la littérature et le cinéma. Elle fait autre chose. Le dernier Zelda, par exemple, est une histoire très convenue, mais le monde est tellement gigantesque, il est tellement bien fait qu'on l'arpente, c'est presque un simulateur de randonnée. On va faire de l'alpinisme, et d'un coup, on va avoir des émotions avec la découverte d'un nouveau paysage. Mais c'est difficile à raconter. Parce que c'est le jeu. Il n'y a que le jeu pour vous procurer une telle émotion. Il n'y a rien de stupide. Effectivement, le scénario, lui, bon, ben, il tient sur une feuille de papier. Mais les impressions
interactives... Et le mode de narration, c'est ce que vous dites, le mode de narration qui se réinvente sans cesse.
Exactement, et qui se réinvente avec le jeu, avec l'interaction. C'est pour ça que c'est très difficile, finalement, à exprimer sans faire jouer. Voilà, sans faire jouer les gens. Il faut faire... Pour connaître le jeu vidéo, il faut y jouer parce que ce sont des émotions que ne pourront pas vous procurer la littérature, la philosophie ou le cinéma.
Alors il y a un snobisme aussi inhérent aux gamers, c'est-à-dire qu'il y a aussi au sein de l'univers de jeux vidéo ceux qui vont faire une hiérarchie entre certains jeux et d'autres. On va alors là pour le coup faire référence et peut-être faire plaisir à tous ceux qui, s'ils ont joué à un jeu vidéo dans leur vie, eh bien c'est celui-là. Pour ensuite, Jean Zad, avec vous, continuer notre histoire et on va retourner encore bien plus loin pour aborder d'autres types de jeux vidéo peut-être plus contemporains qui proposent des histoires absolument inédites. Mais pour l'instant, 1985, souvenez-vous, c'était ça.
Le monde entier l'attendait. Super Mario All-Stars. Les meilleures aventures de Mario réunies pour la première fois. La foule s'impatiente. Ah, mais les premières stars arrivent. Kiwi, Princess Daisy. Est-elle seule? Non, elle est accompagnée de l'excellent Axtool. Wart et Ostro. Bowser et Heidi. Et attendez, il y a... Oui, c'est lui, c'est Mario. Retrouvez les stars de Mario 1, Mario 2 et Mario 3 et l'inédit Lost Levels dans Super Mario All-Stars.
Je crois, hein, quand Super Mario arrive et peut...
Quand il y en a beaucoup.
Voilà, quand il y en a beaucoup et donc tout le monde est content,
quand
il faut imaginer.
La pêche est bonne.
C'est ça. Il faut imaginer là, ce petit bonhomme, ce monsieur tout le monde avec une salopette, hein, un plombier soi-disant, qui se balade sur des plateformes, qui peut sauter sur un champignon qui tout d'un coup peut devenir grand et qui passe dans des tunnels et qui passe d'un monde à l'autre. C'est aussi simple que ça et le succès fut incroyable, Jean Zad.
Oui, surtout pour effectivement un monsieur tout le monde. Hein,
c'est pas un super-héros, c'est
non,
ça
Non, c'est pas un super-héros. Alors il faut dire aussi que cet univers des mascottes dans le jeu vidéo n'appartient qu'à ce médium. C'est-à-dire que Pac-Man, voilà, ce mangeur de bubblegum poursuivi par des fantômes, c'est absolument improbable. Même Space Invaders, hein, le petit vaisseau avec ses aliens. Finalement, tout le début de l'histoire des jeux vidéo est marqué par des mascottes qui n'appartiennent qu'à ce médium, c'est-à-dire ils sont pop, ils sont sympas, ils sont autres. Voilà, c'est effectivement, c'est pas Batman, c'est pas Superman, c'est Super Mario. Alors il est super, mais il est super à sa façon. L'extrait musical est absolument dément. Le compositeur, c'est le japonais Koji Kondo, et c'est lui qui invente avec ce jeu la musique interactive. Vous l'avez écouté. Il y a cette petite ligne mélodique, et on ramasse une pièce de monnaie, on mange un petit champignon, on grandit, et le bruitage fait partie de la musique. C'est-à-dire que pour la première fois,
la
musique est devenue interactive. Est réellement interactif. C'est-à-dire que tout se marie. On ne peut pas imaginer cette musique sans ces bruitages, et d'ailleurs, et inversement. Les deux sont mariés indéfectiblement. Et c'est l'une des marques de fabrique, hein, au-delà du fait que Mario soit un acrobate, hein, un génial acrobate, et tout un univers très coloré, très fantasmagorique, un peu extrait de d'Alice au Pays des Merveilles, avec le fameux champignon, hein, on grandit, on rapetisse. C'est d'ailleurs des souvenirs de Miyamoto, hein, le créateur, hein, de Mario, enfant, il habitait la campagne, et il aimait se perdre dans les grottes environnantes, et donc il a essayé de retrouver un petit peu ce mariage un petit peu de nature et d'aventure et d'exploration dans ce Super Mario. Mais c'est vraiment une pierre angulaire, c'est un vrai Big Bang. Il faut expliquer aussi que quelques années auparavant, 2-3 ans, aux États-Unis, le jeu vidéo va très mal. C'est-à-dire que Atari s'écroule, s'appelle l'Atari Shock aux États-Unis.
On est au début des années 80.
Voilà, c'est ça exactement. Et plus personne ne croit aux jeux vidéo, c'est foutu. On en a trop produit, mal produit d'ailleurs, les jeux sont très très mauvais. À la fin, tout le monde se souviendra d'une adaptation d'E.T., du E.T. de Spielberg, totalement raté et injouable. C'était pas le pire jeu du monde, mais enfin bon, c'était quand même très très mauvais.
Mais il faut dire qu'on joue encore en salle, que peu de gens ont un ordinateur à la maison à ce moment-là.
Effectivement,
c'est un autre rapport.
C'est effectivement un autre rapport, mais aux États-Unis, ça marche plus, on décide que c'est fini, que c'est terminé. Et c'est au Japon, avec Super Mario, que ce jeu vidéo va renaître entre guillemets, de ses cendres.
Et le succès ne se dément pas aujourd'hui, alors qu'existent des jeux beaucoup plus évolués techniquement et riches en termes d'expérience. On joue encore à Super Mario, enfin je crois.
On joue encore à Super Mario. Il y en a un Odyssey, c'est le futur épisode de Mario qui arrive là, va faire événement encore une fois. On est en 2017, il est encore là, le Super Mario. Ce qui est étonnant, c'est que effectivement, plus le jeu vidéo se rapproche finalement du cinéma dans ses moyens de production, c'est ce qu'il fait, il se rapproche du réel, hein, parce que il est né par la science, donc effectivement, il doit y avoir toujours une espèce de promesse. Les nouveaux mondes, ça doit se marier avec les nouvelles technologies, on doit vous promettre, voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose d'incroyable que vous allez voir sur votre écran, mais, ça crée aussi d'autres pistes, c'est-à-dire le jeu indépendant, les jeux plus classiques comme Mario qui s'en sortent même plus que très bien en France, c'est toujours un succès, jamais démenti. Et donc ça crée d'autres branches, finalement assez artistiques souvent, et avec cette branche centrale qui cherche effectivement à produire comme le cinéma.
Alors si l'histoire du jeu vidéo s'est arrêtée à Mario, il n'y aurait pas de problème, j'en sais. Au pire, on dirait oui, c'est un jeu sympa, voilà, mais je pense qu'on n'en serait pas ici dans le... peut-être que d'ailleurs on ne serait pas en train d'en parler là, ou alors ce serait vraiment une partie de l'émission et pas, j'y consacrerais pas toute une semaine.
Le livre serait plus court.
Votre livre serait plus court, ce qui serait bien dommage. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir de là, et là, on part, même si on remonte jusqu'à aujourd'hui, les jeux vidéo, plus la course vers le réalisme va s'installer, plus bizarrement, peut-être paradoxalement, ou pas, la violence va venir aussi. Il y a une espèce de tournant qui s'effectue. Alors là, c'est en plus ce qui fait le miel de tous les détracteurs, parce que c'est quand même l'argument numéro un, c'est de dire que les jeux vidéo sont ultra violents, que plus les joueurs passent du temps devant l'écran à jouer à des jeux vidéo violents, plus ils risquent eux-mêmes dans la vie de prendre une arme et de tuer tout le monde. Je renvoie au film de Gus Van Sant, hein, Elephant, qui montrait ça bien. Et c'est à partir de ce moment-là que le jeu vidéo, que les gamers doivent eux-mêmes se défendre contre cela. Et là, la défense est très délicate, quand même. Parce qu'il s'agit de dire que, on n'a pas attendu la naissance des jeux vidéo pour proposer des formes de divertissement ou même d'art qui contiennent de la violence.
Oui, on peut commencer par l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Hein. Là, on est franchement sur une violence. On considère souvent l'Iliade comme une œuvre de jeunesse. Si Homère a existé, hein, s'ils étaient plusieurs, ça je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais comme une œuvre de jeunesse, plus portée par l'action, la colère d'Achille, la guerre de Troie, et finalement la violence. Et l'Odyssée comme une œuvre de maturité, hein, pour pas dire de vieillesse, c'est-à-dire le retour d'Ulysse, hein, qui veut vivre tranquillement à la maison avec femme et enfants. Et ne plus se soucier d'aller combattre sur la plaine de Troie. Mais si on regarde l'Iliade, enfin pour l'avoir lu, hein, grâce d'ailleurs à France Culture, puisque j'ai bien suivi les grandes traversées qui ont dédié une semaine sur Homère et l'Iliade et l'Odyssée.
Cet été, oui.
Cet été, franchement, ça donne le cœur, très souvent, la lecture d'Homère. Enfin, c'est réellement violent. Enfin, ça découpe, ça tranche, ça saigne, et ça saigne de partout. C'est qu'il y a, sur la description, si on faisait une adaptation cinématographique, aujourd'hui, ce serait impossible. C'est du Romero, c'est du zombie. Enfin, on peut pas. Il serait interdit au moins de 18 ans. Enfin, ce serait un scandale. Mais on ne sait pas ce qu'on, c'est ce qu'on reproche aujourd'hui, finalement, aux jeux vidéo. Mais le jeu vidéo, c'est comme l'Iliade. C'est une œuvre de jeunesse. Il n'a pas 50 ans. Il fait encore œuvre d'action et œuvre de violence pour se faire remarquer. Mais on voit qu'aujourd'hui, peut-être que le jeu vidéo met de l'Odyssée dans son Iliade. Et que petit à petit, on commence à se poser des questions sur le deuil, sur les amis, les amours, les regrets. Et de manière interactive, ce qui est là par contre totalement inédit. Et on commence à voir arriver finalement cette branche qui s'écarte du pur plaisir, on va dire de la colère d'Achille, je dirais, pour aller vers des questions bien plus matures, plus quadra, quinca, plus tiens, est-ce que je peux me regarder, est-ce que je peux regarder derrière moi, est-ce que je peux regarder ma vie, est-ce que je peux regarder les souvenirs, et comment le jeu vidéo peut m'amener à faire ça. Et il le fait, et il le fait d'ailleurs très très bien. Donc ce qui est drôle, c'est on est en plein passage, j'allais dire, entre l'Iliade et l'Odyssée pour ce qui concerne le jeu vidéo, ce qui n'éliminera jamais l'Iliade. Il y aura toujours de la violence dans les jeux vidéo, mais c'est une violence interactive qui pour moi, au contraire, en tout cas c'est mon analyse, c'est de la violence dans le canapé. Hein. Donc vous n'êtes pas dehors à frapper des gens, vous êtes toujours dedans.
Achille, brandissant sa longue javeline, il la lance en avant. Mais le brillant Hector l'aperçoit et l'évite. Il voit le coup, se baisse, et la pique d'airain vole au-dessus de lui, le dépasse, et plus loin se fiche dans la terre. Dans son âme, à l'instant, Hector comprend. Il tire le glaive acéré, grand et fort, à son flanc suspendu, puis, s'étant ramassé sur lui-même, il s'élance. Tel l'aigle de haut vol qui fonce vers la plaine à travers une sombre épaisseur de nuages et qui veut s'emparer d'un agneau délicat ou d'un timide lièvre. Ainsi bondit Hector en levant son épée. Achille aussi se rue, et son âme s'emplit d'une sauvage ardeur. Son bouclier splendide aux multiples décors lui couvre la poitrine, tandis que sur sa tête aussi son beau casque à quadruple bossette. Du cadavre, il arrache sa pique. Il la pose à l'écart, puis dépouille le mort de ses armes sanglantes. Et sans tarder, outrage Hector divin. De ses pieds, par derrière, il perce les tendons, des talons aux chevilles, y passe des courroies, puis les lie à son char, laissant traîner la tête. Il monte sur le char, prend les illustres armes, et d'un coup de fouet, enlève les chevaux qui, pleins d'ardeur, s'envolent. Le cadavre traîné se couvre de poussière. Sa chevelure sombre alentour se répand, et sa tête, jadis charmante, gît au sol, entièrement souillé.
Ok, alors ça commence extrêmement fort, cinématique. Vraiment génial. Graphiquement, il tue. Alors en cinématique, j'en parle même pas. En jeu, je l'ai mis en élevé. Apparemment, ça semble tenir niveau FPS, parce que vu que je record, je fais attention. J'ai pas précisé, je suis sur PC quand même. Hein. Je suis sur PC, histoire d'avoir une expérience de jeu optimale. Et ça commence très fort, alors il faut que je me libère. Oui, je crois que je faisais la bonne méthode. Hop. Alors, qu'est-ce que... Je pense que la corde va lâcher. Donc, pour ceux qui connaissent pas, on est aux commandes de Lara, qui est une aventurière un peu... Je crois chasseuse de trésors. Riche héritière des Crofts, donc qui a en sa possession un énorme manoir. Allez, va dans le feu. Ah, vas-y, enlève-toi ça. Alors, je vous avais prévenu, c'est quand même assez dégueu, mais bon, moi j'aime bien, c'est assez prenant. J'ai pu prendre un petit peu la température sur les réseaux sociaux, et j'ai cru voir en tout cas que vous étiez emballé à l'idée de voir ce let's play. Et puis bah écoutez, merci en tout cas d'avoir regardé ce premier épisode, n'hésitez pas à laisser un j'aime avant de partir. Et puis donc on se retrouve dans 2 jours pour la suite de notre let's play sur Tomb Raider.
Un j'aime, c'est pas une pierre précieuse, hein, c'est un j'aime, un like, on dit aujourd'hui, hein, c'est un pouce levé pour dire que cette vidéo a été approuvée par ceux qui l'ont vue. C'est Sifano, qui a 2 120 000 abonnés, qui vont régulièrement, qui viennent regarder ces vidéos pour l'entendre commenter le jeu, ici Tomb Raider, hein, c'est Lara Croft, donc il joue et il commente en même temps ce qu'il est en train de faire. Juste avant, vous avez entendu sur France Culture un extrait de l'Iliade d'Homère, interprété par la comédienne Pauline Ziadé, un extrait où on voit la violence inouïe dont font preuve Achille et Hector à l'égard, à l'encontre l'un de l'autre. Cette violence, et c'est marrant parce que c'est exactement ce terme-là que reprend le youtubeur pour commenter le jeu auquel il est en train de jouer, si bien qu'ici, dans les deux types de narrations très différentes, on a, la ressemblance est assez troublante, n'est-ce pas Jean Z?
Oui, mais parce que je pense que la violence est fascinante. Il est assez intriguant de voir qu'aujourd'hui, le jeu des jeux, c'est GTA, GTA V, qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires.
Grand Theft Auto.
Donc le but du jeu, au départ, le but du jeu, c'était quand même de voler des autos, voilà, et de faire des coups bas, les coups bas les plus violents possibles. Mais aujourd'hui, on est sur un terrain de jeu qui est de 60 km carrés. On peut s'amuser dans une ville, mais on s'amuse à être autre chose et on s'amuse effectivement à enfreindre toutes les règles. C'est-à-dire que le jeu vidéo le plus sulfureux de tous les temps, en tout cas, il y a d'autres exemples, mais celui-là vraiment c'est le plus sulfureux de tous les temps, est aussi le plus mainstream, c'est-à-dire le plus populaire, le plus aimé. C'est quand même étrange. Donc quelque chose nous fascine dans cette histoire, comme quelque chose nous fascine à la lecture de l'Iliade.
Ouais.
On peut être que à la fois dégoûté et totalement fasciné. C'est la même chose. Ils parlaient de Lara Croft, ils appellent ça un let's play. Alors le let's play, c'est bon, effectivement.
Let's play, jouons.
Ce sont des gens, généralement sur YouTube, mais ça peut être d'autres plateformes de vidéos, voilà, qui se filment en train de commenter. Voilà. Alors ils sont beaucoup plus animateurs maintenant. Donc à la fois, il y a la partie
incroyable.
Qui se joue, mais c'est un succès incroyable. C'est-à-dire que
2 millions d'abonnés,
mais il y en a maintenant qui les surpassent très largement. On est à plus de, pour PewDiePie, qui est un YouTuber controversé, mais enfin, on est à plus de 50 millions, je crois. Donc et là, on regarde parce que il y a aussi le talent de l'animatrice ou de l'animateur qui est là et qui emporte le morceau et qui fait vivre comme là en train de commenter, de décrire ses propres émotions. Et donc, du coup, il y a un effet miroir. Nous aussi, on vit un peu, on est dégoûté.
Mais on est proprement spectateur pour le coup, on n'est plus acteur.
Complètement. Mais alors, c'est vrai que les scènes de Lara Croft, donc c'était le retour de Lara Croft en 2013, le retour de Tomb Raider, donc cette héroïne, cette Indiana Jones du jeu vidéo. Et effectivement, les développeurs, les créateurs ont pris un soin tout particulier à montrer différentes morts de Lara Croft, qui meurt souvent, parce que voilà, c'est l'aventure qui veut ça, mais de manière la plus horrible possible. Il y a vraiment, c'est une quantité horrible de sang. Et donc, du coup, on a un pur réflexe de joueur, c'est de, non, on veut pas voir ça. Alors, soit on est fasciné et on meurt le plus souvent possible pour voir les différentes morts de Lara Croft. Moi, c'était pas mon cas. Moi, je voulais pas qu'elle meure pour pas la voir souffrir autant, parce que c'était réellement un spectacle quelque part masochiste. Mmh. Mais, est-ce qu'on n'est pas masochiste en l'Iliade et est-ce qu'on n'est pas masochiste en jouant à GTA?
On pourrait vous répondre que la grande différence entre l'Iliade et les jeux vidéo, c'est que l'Iliade, c'est un texte, donc chacun y met l'image qu'il veut, alors que les jeux vidéo imposent une vision des choses, imposent une image qui, elle, peut marquer beaucoup plus qu'un mot.
Effectivement, mais je sais pas quelle image on peut retirer. On verra pas des poneys, un arc-en-ciel en lisant l'Iliade. Ou alors j'ai mal lu les coups d'airain que prennent les Grecs sur la plaine de Troie. Mais oui, vous avez raison. Effectivement, mais c'est comme le cinéma, ça impose une vision. Mais après, je crois que l'imaginaire aussi commence à travailler de son côté ou s'en défend ou etc. etc. Je pense pas que l'interactivité amène à la violence. Je crois qu'au contraire, elle c'est pas qu'elle désinhibe. On se défoule. Voilà, c'est un défouloir.
Ça, c'est la dimension cathartique.
Exactement.
Du jeu vidéo. Hein. On pense à la poétique d'Aristote, dans lequel il montre la fonction de la tragédie au sein de la cité grecque. C'est que chacun se ressemble de manière, s'assemble même autour des comédiens qui vont jouer une tragédie, donc souvent sanglante, tragique, donc par définition, de toute façon, qui provoque les larmes et l'effroi. Les spectateurs sortent du théâtre et sont quelque part purifiés de leur propre passion négative. C'est fondamental pour Aristote dans le bon fonctionnement de la société. Pourquoi pas avec les jeux vidéo? Peut-être on veut dire la grande différence, c'est que là, c'est pas du tout collectif.
Ah, de plus en plus collectif.
Mais je vous tends une
perche. Je sais bien, oui. De plus en plus collectif, ce qui est assez, là aussi, étonnant. On imagine ça comme un loisir solitaire. Il est de moins en moins, en réalité.
On joue en réseau.
On joue connecté avec des amis, ou on va à la rencontre de joueurs du monde entier. C'est la grande tendance du moment, j'allais dire, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est de connecter tous les joueurs et que tout le monde, finalement, soit, joueur et que, voilà, quasiment plus de traces d'ordinateur, hein, généralement les personnages non jouables, de les faire disparaître pour au contraire laisser place à une dimension sociale inédite, parce que là c'est une dimension planétaire. Il n'y a que les réseaux sociaux pour donner une comparaison viable. Mais dans les jeux vidéo, aujourd'hui, c'est la grande recherche, c'est faire jouer les gens tous ensemble, limite à les faire jouer vraiment ensemble dans un but commun, c'est-à-dire ne pas les faire jouer les uns contre les autres, hein. Vous parliez de face à face pour parler de Pong, là non plus de face à face, c'est-à-dire tous ensemble contre un objectif. Voilà. Et là, on est plutôt dans cette tendance actuellement et ça marche très très fort.
Et là, on retrouve la dimension cathartique ou même d'exutoire, c'est que si on est tous ensemble contre un objectif, c'est la fonction du bouc émissaire hein, décrite par René Girard. Il faut pour que le collectif, la société se cimente, il faut désigner un ennemi commun qu'on va lyncher pour mieux fortifier ensuite la structure.
C'est vrai, et d'ailleurs, souvent, les nazis et les morts-vivants vont jouer le rôle de bouc émissaire parce que les nazis moralement indéfendables et les zombies sont déjà morts. Mais en plus, ils ont une fonction de dire « Ah, ça pourrait être une partie de notre futur. » Si notre futur, est-ce qu'on pourrait être des morts-vivants avec une vision extrêmement pessimiste du monde. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs la notion de mort, la propre mort du joueur et la mort des autres, la mort des ennemis.
Ouais.
La mort du joueur finalement n'a absolument pas, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, la valeur de regret, de douleur, de disparition, c'est un passage, c'est-à-dire un passage à un autre niveau. Si je meurs, ça veut dire que je n'ai pas été assez bon. Et pour être assez bon,
le fameux die and retry.
Exactement, mourir, recommencer. La mort n'a absolument pas de valeur sentimentale là-dessus. Mais elle commence à l'avoir. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il commence à y avoir des jeux, comme Undertale, par exemple, qui est sorti il y a quelques mois, où le jeu questionne sur les monstres. Hein. Bon, alors que ça commence comme un Zelda, c'est-à-dire c'est une aventure un peu moyenâgeuse, un peu fantastique, et on va détruire des monstres. C'est normal, c'est du jeu vidéo. Mais là, le monstre s'en rappelle, ou le prochain monstre s'en rappelle, non, t'as tué mon cousin, ou etc. Alors, on commence à avoir une culpabilité morale, enfin, mince, ah oui, d'accord, je recommence. Alors, du coup, on sauvegarde, on se dit, bon, allez, je vais revenir à une sauvegarde avant, et puis je vais pas le tuer. Mais sauf que le jeu s'en souvient, et le jeu me dit, mais la dernière fois que tu m'as rencontré, tu m'as tué, c'est quand même un peu dur. Et donc, de fait, il y a une espèce d'humanité,
et d'humanisme. Du jeu vidéo,
exactement, ouais. Et il y a un humanisme qui commence à s'installer, le jeu joue là-dessus, il est génialissime, il est interactif, ça reste un jeu vidéo, mais du coup, il questionne cette question du monstre, de l'ennemi, du bouc émissaire, et finalement de la mort. Mais la mort est beaucoup plus légère, elle n'a absolument pas la dimension qu'elle a dans, par exemple, dans la littérature ou au cinéma.
Et c'est là où on retrouve l'importance de la dimension active du joueur de jeux vidéo, c'est que si c'est lui-même en tant que personnage virtuel qui peut mourir et renaître de ses cendres sans cesse, et ben ça ouvre un rapport au monde complètement différent, puisque nous avons ici-bas, jusqu'à preuve du contraire, Jean Z, qu'une seule vie, ça dépend des religions, en tout cas, généralement en France, on n'en a qu'une seule, où l'autre est bien différente. Dans l'univers des jeux vidéo, on peut sans cesse recommencer. C'est là, pour le coup, on peut parler en philosophie du courant du perfectionnisme moral qui pense qu'il faut sans cesse essayer de s'améliorer en renouvelant des expériences. Là, les expériences dépassent complètement la mort, qui n'est plus une limite et qui, de ce fait, crée, pour le coup, une expérience absolument inédite et vraiment créatrice de nouveautés.
Oui, créatrice de nouveautés, même si on
peut... Et vecteur d'amélioration, puisque vous parliez de l'éthique, c'est ça.
Ça ressemble à un apprentissage, purement et simplement. Ça se rapproche peut-être de l'erreur cartésienne, c'est-à-dire, on fait une erreur, mais c'est pas grave. Hein. L'erreur n'est là que pour amener au stade suivant et au niveau suivant, et finalement, on s'améliore. Il y a une phrase qui est connue, un adage qui est connu dans le jeu vidéo, c'est facile à prendre en main, difficile à maîtriser. C'était le cas de Pong, facile à prendre en main, tout le monde sait, le jeu vidéo est universel, mais difficile à maîtriser, parce que si l'adversaire, lui, joue bien avec la balle et les barres, eh bien vous allez être tout de suite en difficulté parce que lui techniquement est bien meilleur. Donc effectivement on a toujours ce rapport à l'apprentissage et finalement à cette mort. Alors est-ce qu'elle virtualise la mort? Je pense que non, parce que de fait dans la vie réelle vous rappelle toujours à ses bons droits et finalement. Mais il y a par contre quand on voit une différence virtuelle réelle, là où il y a une injustice, c'est que le jeu vidéo est parfait généralement. Et peut-être que Super Mario Kart, mais j'y reviens, qu'il n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'il est parfait, il y a des règles du jeu. Si vous suivez les règles du jeu, si vous avez la bonne technique, vous gagnez. Ce n'est pas le cas dans la vraie vie. Et ça donne souvent donc la vraie vie comme lieu de frustration, d'incompréhension et finalement, pour tout dire, voilà, d'injustice totale. Le jeu vidéo n'est pas injuste. Super Mario Kart l'est. Par exemple, on a ce qu'on appelle la bombe bleue. Quand vous êtes premier depuis trop longtemps, le dernier, le huitième, peut vous balancer une bombe bleue totalement injuste. Et alors vous avez été, ça dure trois tours, hein, un circuit de Super Mario Kart. Vous êtes premier pendant deux tours et ben vous voilà perdant. Voilà, vous voilà huitième à la dernière seconde parce que vous vous êtes pris une bombe bleue. C'est ça s'appelle l'injustice de la vie. C'est la transcription vidéoludique de l'injustice de la vie, cette fameuse bombe bleue. Mais effectivement, moi, ce que je vois comme réelle différence entre le jeu vidéo et la réalité, c'est bien cette différence de règles. Si on suit les règles dans les jeux, on gagne. Si on les suit dans la vraie vie, ce n'est pas vrai.
Et c'est vrai, d'où le réconfort peut-être à pénétrer dans l'univers d'un jeu vidéo, où au moins il suffit de connaître les règles pour pouvoir s'en sortir.
Exactement, et pour pouvoir gagner. J'allais dire pour rejoindre un mot de Montaigne, pour avoir une bonne vie. Ce qui est bizarre, hein, alors que les circonvolutions pour avoir une bonne vie dans la vraie vie sont beaucoup plus complexes que dans les jeux.
Il reste à savoir aussi si cette différence entre l'univers des jeux vidéo et l'univers réel est si marquée que ça, ou plutôt si on part toujours du principe que le danger, en fait, de trop grande fréquentation des jeux vidéo vient que on va adopter les mêmes comportements dans la vie réelle. Mais c'est quand même prendre les joueurs pour des imbéciles, c'est-à-dire que tout le monde est assez. On sait très bien faire la différence, de même qu'on sait faire la différence entre un rêve et la réalité, entre un cauchemar et la réalité. Le virtuel n'est pas le réel. Ça ne veut pas dire que l'expérience est réelle. Et ça, c'est la subtilité sur laquelle je souhaiterais insister, c'est que ce que l'on vit dans un monde virtuel, ce que l'on vit dans les jeux vidéo, on le vit vraiment. Il y a un apport, un enrichissement direct de cette expérience-là.
Oui, il y a un apport direct dû effectivement à l'interactivité et dû à cet être qui est un petit peu indéfinissable, c'est-à-dire l'être de l'interactivité. Qu'est-ce qu'elle nous offre comme histoire? Qu'est-ce qu'elle peut raconter comme histoire qui est finalement totalement différente de ce qu'on trouve au cinéma et en littérature et qui est si difficilement d'ailleurs exprimable et qui s'exprime et que j'exprime d'ailleurs très difficilement. C'est ça la vérité, c'est-à-dire que moi, je pense pas qu'en... Ça peut servir d'exemple. Le rock'n'roll, la rébellion, tout ça, et on est encore dans le temps de la rébellion dans le jeu vidéo, ça peut évidemment servir d'exemple. Il faut pas dire le contraire. Je veux dire, ne jouer qu'à des jeux violents, peut-être que ça peut rendre, au bout d'un moment, finalement, assez violent. Mais je le redis, la vie vous rattrape, mais c'est pareil en littérature, c'est pareil au cinéma. Toutes ces formes de violence ne sont pas créées par la littérature, le cinéma ou le jeu vidéo. Elles sont créées par l'homme. C'est l'homme qui est violent. C'est-à-dire qu'on oublie le problème, finalement, le problème premier.
Est-ce que c'est les jeux vidéo qui rendent violents la société ou est-ce que c'est la société qui rend les jeux vidéo violents?
C'est la société qui rend les jeux vidéo violents. Sinon, l'industrie n'en créerait pas, puisqu'elle ne ferait pas d'argent avec. Les gens s'en ficheraient. Ce n'est pas le cas.
C'est qu'il y a une demande.
C'est qu'il y a une demande. C'est qu'on retombe sur l'Iliade d'Homère. Hein, et que l'Iliade, c'est le lieu de la guerre, c'est le lieu de l'action, et que cette guerre est toujours là. Et que même si nous vivons en Europe dans un moment de paix, j'extrapole. La réalité, de fait, c'est que nous sommes toujours attirés, malgré tout, vers une zone de guerre. Parce que c'est la violence. Et on a beau créer des espaces de paix, elle nous court toujours derrière, cette fichue guerre. Et voilà, le jeu vidéo, je trouve que pour moi, c'est plus un exutoire. On vient là quand on a bien compris que c'était pas un exemple à prendre. Ça n'empêchera personne de devenir un voyou. Et encore que, pourquoi pas aujourd'hui, il y a des jeux qui vous apprennent la contemplation, à regarder, à prendre quelques minutes sur des paysages qui s'offrent. Voilà.
Justement, Jean Z, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que le jeu vidéo en est à la transition entre l'Iliade et l'Odyssée. On a entendu un extrait très violent de l'Iliade, le combat entre Achille et Hector, illustré par Tomb Raider, une scène aussi très violente commentée par le youtubeur. Voici ce que serait peut-être l'équivalent de l'Odyssée pour les jeux vidéo, c'est-à-dire une forme de sagesse reconquise et une sorte d'apaisement tout aussi ludique, mais qui n'est plus dans une expression, dans un geste cathartique, une expression de colère absolue. Écoutez, c'est la musique qui accompagne Journey. Alors là, il faut imaginer, Jean Z, des paysages sublimes, qui ressemblent à des dessins animés. C'est clair, on n'est pas dans l'ultra réalisme, on n'est pas du tout dans une, dans la copie du cinéma ou de la photographie. On voit que c'est dessiné, c'est complètement onirique, on entend des souffles, du vent qui viennent caresser des dunes, on suit les personnages dans des milieux sous-marins aquatiques au milieu des poissons où on trouve des anciens temples enfouis. On est vraiment en plein voyage temporel et onirique. Et on est bien loin des enjeux que l'on décrivait jusqu'à présent.
Oui, totalement. C'est un voyage contemplatif, cette journée. C'est pour moi l'un des plus beaux voyages du jeu vidéo récemment. C'est-à-dire qu'il propose un chemin vers la félicité.
Vers la félicité, carrément.
Oui, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas au départ. On arrive, on est au milieu d'un désert et puis c'est tout. Donc on tourne la tête partout, 360 degrés. Mais où va-t-on ? Donc on doit trouver son chemin. Ce n'est qu'une affaire de chemin. Et finalement, on comprend au fur et à mesure du chemin là où il nous amène. Donc on monte, c'est une longue montée, une longue montée en puissance également, où on va rencontrer d'autres joueurs, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on va voir un peu un acolyte, un double, et on se dit, tiens, est-ce qu'il est géré par l'ordinateur ou est-ce que c'est un être vivant qui est derrière ce personnage-là ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend les vieux réflexes du jeu vidéo ? Est-ce qu'on prend l'Iliade et sa lance d'airain et on va le planter ? Ou on lui parle ? Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Et c'est vraiment, c'est très très beau. Et au fur et à mesure, ça dure 2 heures, le temps d'un film. Et au fur et à mesure, on commence à se poser des questions. Alors on peut penser à ses impôts, à sa vie, etc. Enfin, il y a des zones d'ennui parce que l'ennui fait que d'autres questions viennent émerger à l'esprit. C'est très très étonnant de journée. C'est vraiment très très étonnant. C'est 2 heures qu'on a du mal à lâcher. C'est pas quelque chose qu'on saucissonne.
Et pourquoi 2 heures? La durée est imposée.
Non, la durée, c'est 2 heures. Voilà, en 2 heures, on peut prendre beaucoup plus de temps à contempler tout ce qui nous entoure. Mais généralement, c'est 2 heures d'avancer vers cette montagne et contemplative, bouddhiste, parce que évidemment, il y a des résurgences, des échos bouddhistes là-dedans. Mais c'est très très beau. C'est vraiment un voyage unique qui, je pense, là pour le coup, ne renvoie qu'aux joueurs. C'est-à-dire qu'il va y mettre de lui-même. Il sera dans l'obligation d'y mettre de lui-même.
D'autant que le joueur est dans l'impossibilité de choisir son partenaire. La personne qu'il rencontre, il ne le sait pas. C'est comme si c'est l'ordinateur, si c'est quelqu'un, un autre joueur, il n'apprend son identité qu'à la fin.
Exactement.
Il se retrouve en situation de rencontrer un inconnu comme dans la rue.
C'est un peu comme Ulysse qui débarque sur une île inconnue et qui se dit mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Est-ce que ce qui va m'arriver va être joyeux ou est-ce que ça va être terrible ? Et ça, on ne le sait pas qu'en début de journée. On ne le sait pas parce qu'on n'est absolument pas habitué à ce genre de propos dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, désormais, on est un peu plus habitué tout de même. Il y a toute une frange de jeux vidéo qui sont beaucoup plus contemplatifs, qui posent des questions sur la famille, sur la mort, sur la maladie. Il y a un père de famille qui a fait un très joli jeu sur la mort de son enfant atteint d'un cancer et qui essaie de à travers le jeu, mais comprenez pas le jeu ludique, le jeu d'enfant, cette mort et ce deuil, comment il est passé au travers. Et là, on a tout à coup une espèce de transmission d'expérience par l'interactivité, vraiment bluffante.
On va se quitter avec un texte, Jean Z, un texte qui résume, sans le savoir évidemment, mais à la perfection, la discussion que nous avons eue aujourd'hui, les enjeux soulevés par les jeux vidéo, à la fois les enjeux cathartiques qui nous permettent d'exprimer des pulsions qu'on ne peut pas vraiment exprimer ailleurs, l'ambivalence entre l'aspect passif et actif du joueur de jeux vidéo et la façon qu'a le jeu recréé par l'art, si nous accordons un instant aux jeux vidéo la place dans le domaine de l'art, et bien comment cet aspect-là détermine en retour notre rôle dans notre propre vie. C'est un texte de Nietzsche, La naissance de la tragédie. Écoutez.
Jamais encore, depuis Aristote, on n'a donné de l'effet produit par le tragique une explication qui permette de conclure à un état d'âme artistique, à une participation esthétique des auditeurs. Tantôt les péripéties les plus sombres doivent exciter notre pitié et notre terreur jusqu'à provoquer une décharge bienfaisante. Tantôt nous devons nous sentir grandis et transportés par la victoire de bons et nobles principes, par la vue du héros sacrifié aux exigences d'une conception morale du monde. Et s'il est absolument certain pour moi qu'à l'égard d'un grand nombre de personnes, c'est précisément cela, et seulement cela, qui constitue l'effet de la tragédie, il en résulte avec une égale évidence que tous ces gens, ainsi que leurs esthéticiens interprétateurs, n'ont rien connu de la tragédie en tant qu'art suprême. Cette décharge pathologique rappelle une remarquable intuition de Goethe. Ne serait-ce pas vraiment l'un des mérites des anciens que, chez eux, le plus haut pathétique n'a été en même temps qu'un jeu esthétique ? Alors que pour nous, la vérité naturelle doit intervenir afin de produire un semblable résultat ?
C'est ça la question qui se pose, Jean Z. Ne serait-ce pas vraiment l'un des mérites des anciens que chez eux, le plus haut pathétique n'ait été en même temps qu'un jeu esthétique, alors que pour nous, la vérité doit intervenir afin de produire un semblable résultat. Quelle meilleure façon de le formuler ?
C'est une très belle formulation, mais je me demande, plus j'écoute les extraits et vos rappels à la tragédie, si la tragédie n'était pas le rock'n'roll de l'époque. Le jeu vidéo est le rock'n'roll d'aujourd'hui. Le rock'n'roll est mort. Bon, voilà, la rébellion aujourd'hui, pour se confronter aux parents, il n'y a rien de mieux que le jeu vidéo. Ça marche très 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 bien. Le rock'n'roll a fait cela aussi très bien. Et je me demande si la tragédie à l'époque, ce n'était pas un peu ça aussi. Ce n'était pas une forme de rébellion narrative pour montrer les mots de nos sociétés dans une pièce. Je me demande ça, je ne peux plus à l'écoute. Je me demande si effectivement le jeu vidéo n'est pas la tragédie de notre monde, et d'ailleurs tragédie qu'il est en train de prendre et de parler, de récupérer à son compte.
La musique de Super Mario, ça marche toujours. Merci Jean Z.
Merci à vous.
D'être venu nous parler de jeux vidéo aujourd'hui. Je renvoie à votre ouvrage, à votre excellent ouvrage, en tout cas, dont j'ai vraiment adoré la lecture. Je la recommande à vous tous, chers auditeurs. Le jeu vidéo à travers le temps, une coédition Seuil et France Info. Merci à Claire Perriman-Holt qui a préparé cette émission, ainsi que Pauline Vermeuren, David Pargamin, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoy qui exceptionnellement n'a pas présenté son journal de la philosophie aujourd'hui, mais que vous retrouverez très vite, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Clément Daté qui était la prise de son aujourd'hui, et on se retrouve demain pour la suite de cette série sur les jeux vidéo. Demain, ce sera Mathieu Triclot qui viendra vous demander, mais à quoi jouons-nous? D'ailleurs, Mathieu Triclot qui organise à partir de demain, un colloque autour de la philosophie et des jeux vidéo. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires sur le site internet des Chemins de la Philosophie, où vous pourrez réécouter l'émission, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous donc demain à 10h pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.
C'était Philosophie des jeux vidéo, de l'Antiquité à nos jours. Un numéro des Chemins de la philosophie d'Adèle Van Rett, avec le journaliste et auteur Jean Z, diffusé pour la première fois le 18 septembre 2017.